présente, je vais laisser en fait à chacun de nos intervenants 45 minutes, après quoi aura lieu une période de questions-réponses raccourcie, puisqu'on commence avec un peu de retard. Alors, je vais d'emblée présenter notre premier conférencier. Nous recevons donc tout d'abord François Yel, qui est professeur titulaire au département des lettres et communications de l'Université de Sherbrooke. Il a obtenu ses diplômes de maîtrise et de doctorat au département de communication de l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les théories de la communication, l'histoire des sciences humaines et sociales, les études sur les périodiques au Québec, les intellectuels et les médias au Québec de 1940 à 1970, ainsi que la circulation des cultural studies dans la francophonie. Il est membre du groupe de recherche en études littéraires et culturelles comparées au Canada et au Québec de l'Université de Sherbrooke et co-responsable du laboratoire CPCC du département de communication de l'Université Laval. Alors, François va nous présenter donc une présentation. Le titre de sa présentation est « Épistémologie des études en communication ». Ah, qui a finalement un peu évolué. C'est un retour aux sources. Réflexion sur la littérature réflexive du champ des études en communication dans le monde anglophone nord-occidental. François, c'est à toi.
Bonjour à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Jean-Pierre. Merci à Eric d'avoir pensé à moi. Écoutez, au départ, c'était un peu plus long que ça. Eric m'a dit que je devais faire un peu de nettoyage. Ce que j'ai fait. Alors, c'est une vieille marotte chez moi. Je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelle, ce que l'on nomme de façon non officielle, littérature réflexive, à savoir que je vais vous définir la chose. Ça a commencé pendant mon bac, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme professeur Paul Attala, qui à l'époque nous faisait lire des choses qui étaient peut-être un peu trop difficiles pour nous, mais bon, on a réussi à s'en sortir. Mais la plupart de ces textes-là étaient portés sur vers où allons-nous, d'où venons-nous, que faisons-nous aujourd'hui. Évidemment, dans le domaine des études en communication. Alors, je vais commencer par les définitions, éclaircissements, exemples. Qu'est-ce que j'entends par littérature réflexive? Alors, c'est la définition que je donnais dans ma thèse à l'époque. C'est un genre qui n'en est pas un officiellement en soi. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il est au contour imprécis. Il se particularise par un intérêt porté envers un champ d'études, c'est-à-dire que la littérature réflexive existe dans toutes les sciences humaines et sociales, et même dans certaines sciences naturelles. Et l'intérêt de cette littérature-là, c'est qu'elle s'intéresse principalement au travail qui est fait, commis, effectué par ceux qui travaillent dans le domaine des études en communication. Comme je disais dans ma thèse, ça nécessite un moment de pause. Je suis tout à fait content d'avoir trouvé ça récemment. Jonathan Becker et Paddy Scannon, en 2013, disaient clairement « We wanted to make a moment's pause to reflect on the ongoing life of the journal » on parle aussi du Media, Culture and Society « and take stock of where we have come from, where we are now and where we are going ». En fait, vous pouvez retrouver des articles qui prennent à peu près la même formulation, je veux dire des phrases avec la même formulation, depuis les années 20-25. Alors, il s'agit de proposer un état des lieux de la discipline ou du champ selon les façons par lesquelles on arrive à définir la chose, ne pas la définir, d'en faire un bilan, d'examiner le parcours, d'offrir soit des récits historiques, soit même des mémoires, et également d'en étudier, c'est assez intéressant, la question de la santé, c'est-à-dire que le diagnostic nommément dit, intervient fréquemment. Bref, on étudie la santé du patient au moment présent. Bien entendu que par patient, on entend quelqu'un qui n'est pas nécessairement en grande forme, habituellement. Le propos s'adresse à un auditoire réellement précis, c'est-à-dire ceux et celles qui travaillent dans le même domaine. Donc, une posture métathéorique, dialogique ou, comme dit Robert T. Craig, conversationnel. Alors, ça, c'est la dernière diapositive qui est aussi lourde, n'ayez crainte. Alors, habituellement, c'est d'examiner, d'expliquer ce qui détermine l'état présent des lieux, du champ ou de la discipline. Habituellement, un texte réflexif révèle une dimension prescriptive. On la retrouve fréquemment, cette dimension-là, c'est-à-dire, voici ce que je crois que nous devrions faire. par le fait même, ça s'exprime à travers des recommandations. Et habituellement, on fait une demande, c'est-à-dire que le comité éditorial de la revue, parce que c'est la plupart du temps à l'intérieur de revues, le comité éditorial s'adresse à certains chercheurs nommément et les invite à contribuer de par leur posture d'expert du domaine. Je divise la littérature réflexive en deux sous-genres. Enfin, là, vous comprenez que littérature réflexive comme genre, là, c'est moi qui la propose. Là. Il n'y a pas de confirmation où on retrouve rarement l'expression. Donc, soit l'état des lieux, ou bien, comme le disait tantôt Scannell et Twan Bakker, taking stock, et l'autre genre qui est l'historiographie. Alors, l'état des lieux, toujours différentes temporalités possibles, c'est-à-dire différentes temporalités sont examinées sans nécessairement faire l'histoire. C'est-à-dire, on peut très bien travailler sur les années 40 sans faire l'histoire des années 40, faire l'analyse de la production des années 40. Selon les sous-champs, vous comprendrez que la part des chercheurs ici sont en médias de façon large, mais vous pouvez très bien faire ce genre d'exercice en communication organisationnelle, communication interculturelle, journalisme, communication, comme on dit aux États-Unis, human communication, etc. Selon les genres de publications scientifiques, on peut très bien travailler uniquement sur les revues, travailler uniquement sur les livres, travailler uniquement sur les résumés de colloques, etc. Selon les territoires, autrefois c'était uniquement les États-Unis et l'Angleterre, ensuite la France au début des années 2000, des fois quelques exemples dans les années 90, et selon les approches, évidemment. La chose qui est différente avec l'historiographie, la question de l'événement et du récit, intervient. Par exemple, le livre L'histoire de la recherche en communication d'Everett Rogers, qui est une historiographie classique, biographique, ou encore Rogers, l'article qu'il a écrit sur la fameuse période où il était au département de communication de l'Université du Michigan, qui est considéré comme étant le véritable berceau du fonctionnalisme, néo-fonctionnalisme aux États-Unis à la fin des années 50 jusqu'à 1960. Donc, des temporalités, des longues ou courtes durées, des temporalités variables selon les lieux, les personnes, les revues, etc. Bref, le genre est assez éclaté. Des exemples en sociologie de 1913 à 1930. Albion Small, le fondateur du département de sociologie de l'Université de Chicago, déjà dès 1913, prend la peine de faire le tour d'horizon de l'état de la recherche en sciences humaines et sociales et sociologie aux États-Unis. Notez qu'en 1913, ça fait 13, bien sûr, c'est seulement 18 ans que le département est ouvert. En 24, contribution à l'histoire de la sociologie et le fameux texte, le fameux article de Dirk Bernard, c'est-à-dire quelles sont les écoles en sociologie, bien, bien avant Édouard Thériakian. D'ailleurs, de ce texte-ci, je vous propose cette citation et vous allez retrouver ici des éléments qui reviennent constamment à travers la littérature réflexive depuis 70 ans. Alors, la phrase de l'introduction, « I believe there never been a time more fit for stock-taking. The old speculative era in sociology is now practically closed. » Et surtout, « The sociologists, les sociologistes, oui, qui ont été si souvent la risée ou de farce acide de la part des historiens, des économistes et des political scientists une génération de passé, ont réussi à rejoindre en qualité les sciences sociales. » Ce commentaire-là, pour ceux qui ont lu la littérature réflexive depuis les années 50 en communication, ceci est revenu et revient encore aujourd'hui en 2018. C'est-à-dire que les chercheurs en communication sont encore la risée, souvent encore la risée des autres disciplines. Des exemples en communication, 57 à 64, Albig, Berylson, évidemment classique. Alors, j'en ai mis des quatre genres, c'est-à-dire, on revient sur un demi-siècle de livres en communication, l'influence, l'étude de l'influence des médias, un tour d'horizon, deux décennies d'études sur l'opinion publique, etc. Là, je vais m'intéresser à la période contemporaine. La période contemporaine, j'utilise ce numéro-ci du Journal of Communication comme étant le pivot à partir duquel je vais graviter et approcher du temps présent. La raison pour laquelle je vous parle de ce numéro-ci, c'est que j'imagine que dans vos lectures, cette expression-là, Ferment in the Field, vous l'avez déjà rencontrée. Ferment in the Field, c'est le titre de ce numéro spécial du Journal of Communication en 83. Et c'est facile à retenir, 83, volume 33, numéro 3. Vous avez ici le nom des principaux intervenants. Georges Gardner est l'éditeur du Journal of Communication à partir de 1974. On considère que c'est sous le chapeau de Gardner que le Journal of Communication est devenu réellement un périodique solide en communication. Si vous voulez vérifier la chose, retournez tout simplement voir ce que l'on écrivait dans le Journal of Communication de 1960 à 1972 et vous allez voir pourquoi on se moquait autant des chercheurs en communication à l'époque. L'idée du symposium qui a permis de faire ce numéro-ci, c'est que la revue recevait, sans l'avoir demandé, une grande quantité d'articles qui portaient sur l'état de la recherche en communication. Donc, il ne s'agit pas d'une idée de Gardner ou d'un souhait de Gardner, mais bien de l'expression manifestée par une bonne partie, plusieurs chercheurs à l'intérieur du domaine. Et prenez la irez voir le numéro. Les auteurs qui écrivent dans ce numéro-là sont aujourd'hui considérés comme étant les chercheurs phares de l'époque. Plusieurs sont malheureusement décédés, dont notre ancien collègue de l'Université de Concordia, Marty Heller. Donc, 35 articles, 41 auteurs, 10 pays. Ce numéro-là, dans le seul Journal of Communication, a été référé 81 fois. Si vous faites une recherche pour l'ensemble des revues en communication et des livres et tout, on va arriver à peut-être 1000, 2000 références. Il y a eu un numéro qui a suivi 10 ans plus tard, mais jamais autant commenté et référé que celui de 83. Et encore aujourd'hui, et là, ce qui est intéressant, c'est Christian Fox, et vous le connaissez probablement, Triple C, c'est lui. Il écrit un à deux livres par année sur le marxisme, la pensée critique en communication, etc. Et il a eu l'idée de revenir au fameux Ferment in the Field en 2018, donc 35 ans plus tard, et de faire à son tour une évaluation. Et là, on y va une évaluation qui sera peut-être plus encore marquée par les chercheurs associés, les nouveaux chercheurs, nouvelle génération, associés à la mouvance. Pourquoi ce numéro? Comme je vous disais, 19 auteurs sont associés au courant critique. Ce qui, en 83, on est dans ton séminaire. Oui, donc critique, la thématique est bonne, n'est-ce pas? OK. 19 sont associés à la pensée critique et à l'approche critique. Vous reconnaissez les noms. Matlar, Hamlin, Manson, Smyth, etc. L'épilogue de Gardner, The Importance of Being Critical. Tout à l'intérieur d'un champ de recherche qui, à l'époque, est considéré comme étant encore très fonctionnaliste. C'est la grande période de Rogers. Schramm vient tout juste, n'est pas encore décédé, etc. L'une des premières conversations, c'est ça qui m'intéresse beaucoup par rapport à la question d'internationalisation, c'est l'une des toutes premières conversations entre les Européens et les Nord-Américains à propos de la recherche en communication. Et la conversation a lieu à quel endroit? Dans la revue par excellence de l'International Communication Association. Ce qui en fait, justement, sa portée, c'est puis assoit sa portée symbolique. Alors, brève contextualisation des débuts de l'internationalisation et de l'institutionnalisation. Je croise les deux pour cette période. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va? Il y a des mines dubitatives.
Très intéressant.
Alors, pour comprendre la réalité, vous savez très bien, là, l'ACC, pour nous, au Canada comme au Québec, ça ne change absolument rien dans nos vies, sauf organiser un congrès une fois quand même. Aux États-Unis, les associations ont une dimension politique. Elles sont sises à Washington, font du lobby auprès du ministère de l'Éducation et du Science Research Council aux États-Unis. C'est pas pour rien. Alors, ces associations-là, la plus ancienne, dont on entend très rarement parler, nous, parce que la plupart d'entre nous n'en sont pas membres, et on y trouverait peu nos frères parce que c'est un monde à part, parmi les 51 ou 52 divisions de la NCA, vous en avez même une, c'est-à-dire un sous-champ de recherche légitime, family communication. Vous en avez un autre qui est marital communication. Donc, on est dans un univers épistémologique fort différent.
Créé en 1914, change de nom en 1997 pour National Communication, 7000 membres,
11 revues scientifiques que vous pouvez consulter probablement sans nécessairement savoir qu'il s'agit de la NCM. La deuxième plus importante, l'International Communication Association, l'ICA. Pourquoi International? Krippendorf dit ceci. Pour la recognition that communication is not a national or culture specific phenomenon. Ça veut dire une ouverture vers le transnational, le transculturel, etc. Aujourd'hui, 4500 membres, 6 revues. Celle-ci que vous connaissez probablement, l'IAMC, je le prononce en français, IAMCR, créée par l'UNESCO en 1957, environ 1800 membres, une revue, et cette revue-là, c'est la revue de la division économique, politique, de la communication et des médias. Un des tout premiers à incarner cette internationalisation-là, croisé avec l'approche critique, c'est M. Karl Nordenstrand, qui est en train, en ce moment, d'écrire sa biographie en 6 volumes. Donc, il est rendu au troisième. Sérieusement, il est rendu au troisième. Cet homme a participé à tous les grands moments de ce que l'on appelle communication et développement, communication internationale, communication politique, l'UNESCO, l'INCR, etc. Et c'est un des premiers à utiliser dans le titre d'un article scientifique l'expression « critical perspective ». Et ça, il écrit ceci après avoir fait un séjour de presque une année aux États-Unis. Il arrive de la Norvège, il est intéressé par la communication, et là, il s'aperçoit qu'aux États-Unis, justement, le développement est tel que, comparé aux États-Unis, l'Europe seems to be an underdeveloped country in the era of communication research. And compared to the rest of the world, the USA really proves to be greatest in the world. Alors, c'est le constat du déséquilibre important entre la recherche, la place occupée par la recherche américaine dans le curriculum. Une date fort importante, et je ne sais pas si nos collègues à l'Université McGill ont réalisé la chose, mais l'an prochain, ça va faire 50 ans que cette grande rencontre a eu lieu. Cette rencontre-là a eu lieu donc à l'Université de McGill au mois de juin. The Meeting of Experts on Mass Communication and Society, organisé par l'UNESCO sur un texte, une proposition de James D. Halloran. Vous retrouvez là ici plusieurs des chercheurs reconnus comme étant bon, Nordenstein de tantôt, Bella Smith pour le Canada. Et une chose qui est assez intéressante, parce qu'il n'existait pas de département de communication au Québec à l'époque, le président se trouve à être le président de CBC, M. Alphonse Ouimet. C'est une chose qui pourrait être visité aujourd'hui, en tout cas, je l'imaginerais mal, considérant qu'il s'agit de recherche. Pourquoi? Quel est le résultat de ce meeting, ce rapport-ci, le numéro 59? Et son importance est assez grande. Parmi toutes les références que j'ai retrouvées à ce meeting, il y en a plusieurs, j'ai conservé celle de James D. Halloran, c'est-à-dire « The Montreal Meeting ». The publication, également, le rapport, have been described by both those who were in favor of the development, c'est-à-dire le développement d'une orientation politique et théorique à l'intérieur de l'UNESCO, and those who criticize it as making a watershed in international communication research, particularly as far as UNESCO was concerned. Parce que jusqu'à ce moment-là, l'UNESCO ne s'intéressait aux médias que la lumière de l'éducation, et non pas, comme ceci, dans le cas de la recherche, qui va amener, ça ne prendra pas beaucoup de temps, hein, le NORICO, là, le nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, c'est même pas 10 ans plus tard. Ça s'inscrit à l'intérieur de cette démarche-là. Là, je fais un petit compte-rendu. Là. Je suis en train de vous contextualiser l'espace autour du journal numéro 33, voir ce qui a été fait avant pour comprendre sa résonance en 83. Un des premiers readers en communication et médias, en Angleterre, c'était dans le domaine de la sociologie médiatique, c'est celui de Tunstall, avec des noms que vous reconnaissez, à part McWell, ils sont tous encore vivants, ils travaillent encore tous. Et ils sont tous associés à l'approche critique. Le livre de Tunstall commence avec cette référence. Juste 2 ans avant, en Angleterre.
Hanson et Parsons ont fait une étude bibliographique de 10 000 documents dans le domaine des études sur les médias. Sur les 10 000 publiés en 1945 et 1967, ils considèrent qu'il y en a seulement 3 000 qui valent la peine d'être étudiés. Et sur les 3 000, that most mass media research compares unfavorably with the low standards of some other social science area.
Constat, ce qui se fait dans le domaine des études en communication à l'époque est considéré. Bon, je tente de mesurer la portée de mes mots. Parallèlement, en France, presque la même époque, désolé pour la piètre qualité, on demande à Alphonse Silberman, c'est l'Association internationale de sociologie avec une subvention de l'UNESCO, qui demande à Silberman de faire lui aussi une évaluation bibliographique de la recherche. Remarquez le constat auquel arrive Silberman. Une discipline scientifique autonome s'est constituée autour du concept de communication de masse. Elle doit sa force et ses connaissances théoriques aux travaux de la sociologie et de la psychologie sociale, si bien qu'à l'heure actuelle, on peut parler à juste titre d'une branche scientifique interdisciplinaire sur le plan intellectuel comme au niveau des travaux. Ce sont deux études bibliographiques commentées à la même période, excepté que la sélection est un peu différente. Et Silberman, lui, ne se fie qu'aux Américains et non pas aux Anglo-Européens. Toujours dans cette contextualisation, pour les plus jeunes, le premier handbook en communication, c'est en 73, 31 chapitres, 1900 pages, absence du terme critical dans l'ensemble du handbook. Bien entendu, vous remarquerez les noms. Des gens sont associés à communication et développement, ce que l'on appelle le pré-post-colonial méthodologique, là, mais vraiment la bonne. Quelle était l'expression là? L'impérialisme américain épistémologique, je crois que c'est quelque chose de semblable qu'on voyait. Ceci, j'aurais pu en choisir plusieurs autres. J'ai choisi celui-ci parce que Todd Gitlin propose un texte de 50 pages qui déconstruit complètement le fonctionnalisme de Katz et Lazarsfeld en disant qu'ils ont simplement ajouté un étage au bon vieux modèle behavioriste. Et à partir de ce moment-là, il y a un débat épouvantable. Je me souviens quand Katz est venu à Montréal en 90-91, la première question que Serge Proulx lui a posée, c'est « Qu'est-ce que vous pensez, que l'on est 13 ans plus tard, qu'est-ce que vous pensez encore du texte de Gitlin? » Parce qu'il était majeur, ce texte-là. Mass Communication, en 1980, donc qui précède de 3 ans Journal of Communication, et on a ici une autre discussion, une des premières entre les Européens et les Américains. Bref, celui-ci, 87, 4 références. Bref, il n'y a rien de fort. Tout ça s'inscrit à l'intérieur également au niveau de la diplomation. Ça, c'est une statistique que j'ai manipulée il y a quelques années. Regardez la hausse de la diplomation au bac pendant moins de 10 ans. On passe de 14 000 aux États-Unis, de 14 331 000 étudiants diplômés au bac. 2012-2013, 60 000 au bac, 6 500 maîtrises, 650 doctorats. Bref, on produit énormément sur les bancs d'école, mais la production scientifique, elle, ne serait pas plus célébrée. Donc, conclusion de la première partie. Chercheurs nord-américains et européens échangent. C'est l'intensité de la discussion à propos de l'opposition empirical administrative conventional theory versus critical theory. C'est l'institutionnalisation aux États-Unis au Canada, mais c'est le début de l'institutionnalisation en Europe. Examen de titres récents. Parmi les choses que j'ai fait circuler, j'ai fait un tour d'horizon assez rapide d'une quinzaine de revues associées aux grands éditeurs, là, Sage, Routledge, Wiley, etc. Revues scientifiques. Depuis 2007, il y a 20 revues scientifiques en communication qui ont consacré un numéro spécial à la littérature réflexive, c'est-à-dire à quel est l'état ou l'histoire du champ. Au total, et là j'ai mis de côté des revues que vous consultez probablement, JAVNA, est-ce qu'il y en a ici des lecteurs de JAVNA de public? The Westminster Papers, l'excellente revue en communication critique. J'ai mis de côté quoi d'autre? C'est Triple C. J'ai mis de côté. Bref, mais Triple C, il y a une entrevue à chaque numéro presque avec un des grands qui vient de prendre sa retraite. Bref, j'arrive à environ 225-230 articles pour cette courte période. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on est en ce moment en train de se poser, comme autrefois, sinon plus, des questions sur où allons-nous et que faisons-nous. Tout ça est indissociable également, et je crois que vous en avez déjà parlé, mais du rôle crucial des éditeurs dans le domaine de la production scientifique, les éditeurs de revues. Alors, les revues j'ai mis de côté, Nordicum, hein, qui est là depuis 30 ans, c'est 80 ans. Communication Theory, cette revue-là qui a été créée il y a 30 ans par Robert T. Craig, à souligner, le premier article qui est publié dans la revue de l'UQAM, Communauté Recherche en Communication Sociale et Publique, le premier article, c'est un article de Robert T. Craig, traduit pour la première fois en français, et où il présente son métamodèle. Si vous n'avez jamais vu cet article-là, retournez-y, là, c'est la classification selon lui du champ. Et puisque c'est Craig qui a créé Communication Theory, il a dit, si cette revue n'est pas relié à un objet, mais uniquement à la théorie, à travers l'ensemble des différentes façons de penser à la communication, et pas uniquement médiatique, mais dans son répertoire. Alors, hormis ce numéro spécial du 25 ans, depuis 2011, 13 articles réflexifs sont publiés dans cette revue. Sur les 13, il y en a 5 historiographiques et 8 qui font l'état des lieux. À quoi ressemble-t-il? Les 5 articles historiographiques, il y en a un de Doreen de Marson, je crois, sur 3 chercheuses phares importantes. Elle souligne la misogynie criante de l'historiographie de la recherche en communication. Comment on a mis de côté les femmes qui ont consacré leur temps et leur carrière à la recherche en communication sans que personne ne soit encore capable aujourd'hui d'en nommer le nom. Est-ce que quelqu'un ici connaît bien Hertha Herzog? Vous voyez, c'est assez malheureux. Là. On a oublié des dizaines de chercheuses. Vous devez penser que pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas des hommes qui faisaient la recherche, c'était des femmes. Un chercheur oublié. Ensuite, la démarche de l'institutionnalisme historique. Présentation de cette démarche-là comme étant un ajout pour les études en communication. Un autre article est une approche sociologique des sciences à l'histoire du champ, sans passer par Bourdieu. L'autre, Organisation historique des disciplines universitaires sur les problèmes reliés à l'institutionnalisation de la discipline. Et les 8 articles état des lieux. Un qui est très original, qui propose un pont disciplinaire entre la communication et la géographie. Je vois Sylvain sourciller. Dans la question de la nouvelle territorialité de la circulation des messages, et du non-respect de cette territorialité, il peut y avoir différentes façons de réfléchir à la chose. Le fameux, cette thématique-là, fragmentation du champ ou bien une vision systémique du champ. Moi, je pensais qu'on était sorti de ça. Dans les années 70-80, c'était juste ça. On est encore à l'intérieur de devrions-nous avoir une grande théorie ou devrons-nous continuer avec plusieurs théories? Ça me rend impatient. Robert T. Craig, une entrevue avec Robert T. Craig sur la théorie. Ensuite, est-ce qu'on est en train de passer à un nouveau paradigme en communication médiatique? Est-ce que je sais? Et là, vous avez un autre article. Non, on n'est pas en train de passer à un autre paradigme en communication. Les plus intéressants. Deux articles. C'est un numéro de 2014, publié en même temps que l'article d'Oumar en 2014. Oumar ne peut pas avoir cité ces auteurs-là parce qu'ils sont publiés la même année. Ces auteurs-là ne peuvent pas avoir cité Oumar parce qu'ils sont publiés la même année. Il y a une coïncidence assez intéressante, ce qui fait qu'il y a deux articles sur la nécessité de déwesternaliser, désoccidentaliser la recherche en communication. Ensuite, un article sur l'importance d'une théorie géoculturelle versus une véritable perspective locale en recherche en communication. Une épistémologie décoloniale, principalement en Afrique, et un autre article sur les approches théoriques de la normativité en communication. C'est assez long, mais ça, si fait partie de cette époque actuelle postcoloniale, rafraîchissante, où on fait référence à ce qui se fait en Amérique du Sud, etc. Également. D'autres articles tirés de d'autres revues. La raison pour laquelle je vous présente ceci, et je pense que Lina va être contente de voir ça, c'est que nous avons M. Wardeher, M. Wendelhal, M. Mayen. Ici, nous avons des Suédois, mais la raison pour laquelle je souligne ça, c'est que la discussion réflexive n'est plus réservée aux chercheurs des pays habituels. Les 5 continents sont représentés. Place grandissante des chercheurs de l'Allemagne, ce qui est, et la raison, je vous dis, participation, c'est qu'enfin, ils ont commencé à écrire en anglais. Enfin, pour quelle raison? Parce que si vous ne parlez pas allemand, vous ne pouvez pas savoir ce qui se fait comme recherche en Allemagne. Et il s'en fait depuis la Deuxième Guerre mondiale, officiellement, mais avant également. Donc, un symptôme de l'internationalisation, on pourrait dire également un symptôme également de la question de la crédibilité des revues scientifiques dans le monde de l'achat des revues. C'est-à-dire, si vous n'êtes lu que par les Allemands, votre reconnaissance internationale en tant que revue sera moins élevée par le fait même, ce qui se fait qu'on commence à publier beaucoup plus en anglais. À l'époque, quand j'ai fait ma thèse, les deux seules choses que j'ai trouvées, ce sont ceci. En langue anglaise, le German Communication Yearbook. Un yearbook, ça veut dire un annuel. Il n'a été publié qu'une seule fois. Le deuxième, c'est Communication Research and Media Science in Europe. Ces deux ouvrages-là permettaient de savoir à l'époque ce qui se faisait en Allemagne comme recherche. Si on faisait un petit quiz, quel était le chercheur ou la chercheuse allemande que tout le monde pouvait connaître à l'époque, que vous connaissez peut-être encore aujourd'hui? Elisabeth Noël Newman, ça vous dit quelque chose?
C'est une Allemande.
C'est une Allemande. On a fait également des accusations comme quoi elle aurait participé au parti, se collaborer avec le parti nazi à l'époque. Mais pendant, jusqu'en les années 90, le seul ou la seule Allemande qu'on connaissait pendant les chercheurs, c'était. Depuis 2011, cette revue-là est devenue bilingue. J'ai vérifié, mon université est abonnée, l'Université de Montréal est abonnée, je ne sais pas si vous êtes abonné, vous devriez. Et là, c'est à ce moment-ci. Vous remarquerez, il faut faire attention, European Journal of Communication Research, mais c'est précédé par Communication avec un S, ne pas confondre avec l'autre qui est établi au centre de l'Angleterre. Un exemple de cette participation, cet article que j'avais mis dans la liste, comme de Stéphanie Averdaklitz, Communication Studies Beyond the National, Connection and Disconnection Between Research Communities and How to Study. C'est assez intéressant, et la raison pour laquelle je vous mentionne, outre le fait que c'est une Allemande qui écrit beaucoup en anglais, publie beaucoup en anglais, c'est qu'elle cristallise l'articulation possible entre la littérature réflexive historiographique et la littérature réflexive de l'état des lieux. Et elle fait les deux à l'intérieur d'un article relativement court, en mettant de l'avant la question du national versus l'international. Je parle beaucoup d'internationalisation, ce que j'ai oublié de souligner, c'est que dans l'ensemble de cette littérature-là, ça va pour le temps? Dans l'ensemble de cette littérature-là, on revient beaucoup sur voici ce que nous faisons au Brésil, voici ce que nous faisons en Tunisie, voici ce que nous faisons en Espagne, au Portugal, etc. Donc, on continue encore aujourd'hui, malgré la globalisation, de par les développements institutionnels différents, à considérer notre communauté comme étant relativement homogène. Prenons les chercheurs du Québec, nous avons accès aux mêmes fonds, aux mêmes organismes de subventionnaires, nous n'en avons pas accès à d'autres, etc. Nous avons des postes qui s'ouvrent, tout ça à l'intérieur d'une communauté. En guise de conclusion, j'ai sélectionné deux, il me semble, ou trois, en tout cas, on va le voir. Tinerman, la revue Communication Monographs, en collaboration avec le Journal of Applied Communication, en 2009, a lancé une invitation avec cette question-ci.
Est-ce que la recherche en communication a fait une différence?
Une différence où? Une différence comment? Une différence où? Dans la communauté, dans la société, pour le projet moderne peut-être, peu importe.
Alors, une des premières choses qui est à la base de cette question, c'est une incertitude quant à la visibilité, à la reconnaissance de la recherche effectuée
en communication. En effet, vous savez, paraît-il que dans un épisode des Simpsons, on fait référence à un personnage et on dit « He's majoring in communication. What's that bullshit? Bla, 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 bla. »
Alors, quelle est la pertinence? Appel formulé à la communauté afin d'examiner l'affirmation. Je retiendrai ce commentaire-là,
critique de Garcia Jiménez et Robert P. Craig, qui disent « Ce sont tous des réponses positives qui
ne sont fondées que sur une vision instrumentale et utilitariste de la recherche. »
Robert P. Craig repose la question en disant « Est-ce que nous avons fait une différence? » C'est pas ça la question qui compte. Est-ce que nous avons fait une bonne différence? Quelle est la qualité de cette différence que nous avons apportée? Et selon Craig et Jiménez, cette différence-là n'est pas encore assez exprimée clairement.
Le deuxième, Jeff Pooley, il revient avec The Field, le thème encore une fois, The Field Fermented, Prestige and the Vocational Bind in Communication Research. Ça, c'était dans un numéro spécial d'International Communication Gazette. On parle d'environ 28 articles au total. Et il dit, The problem with communication research is instead its reputation. The field's marginal status, a product of its peculiar institutional history, means that our work is not read by scholars from other disciplines.
Comment peut-il affirmer ou appuyer ceci? Différents éléments.
Ce n'est que tout récemment aux États-Unis, même si les doctorats, le premier doctorat en communication remonte à 1944, le U.S. National Research Council ne reconnaît le champ doctoral en communication que depuis 2003.
On parle de près de 50 années d'évaluation.
Recently, U.S. academic deans surveyed judge communication to have the lowest prestige among the 25 disciplines named.
En bout de course, ce qui se dégage, selon Pooley, c'est un knowledge deficit in the balance of academic trade. Communication has tended to import much more than it exports. Il termine l'article en disant, Vous connaissez James W. Carey, qui est décédé il y a presque une dizaine d'années. James Carey, c'est celui qui a permis le développement des cultural studies aux États-Unis, mais celui qui a permis la vision critique des cultural studies aux États-Unis. Prenez Robert P. Craig. Ce que Pooley pose comme question, c'est personne à l'extérieur des études en communication ne sait qui est James Carey. Personne. James Carey a tout de même publié 125 articles et quelques livres. James Carey est intervenu comme président de la NCA, président du DGMC, fait une carrière sur l'étude historique du journalisme, etc. Robert T. Craig, écoutez, c'est un intellectuel renommé, reconnu, etc. Les chercheurs en communication, selon Pooley, puis si vous faites vous-même une petite recherche croisée, ne sont pas commenter à l'extérieur du domaine de la communication parce que les autres disciplines ne considèrent pas la chose. Je terminerai là-dessus toutefois. Le tapis est en train de nous glisser sous les pieds. Pendant des années, la sociologie, puis je pense qu'elle nous témoigne de la chose, la sociologie au Québec n'était pas du tout intéressée par les médias ou très peu ou la culture médiatique. D'accord.
Par les auteurs qui
viennent
du champ.
Par les auteurs qui. Ah oui. En politique, la même chose. En sociologie, politique et j'en avais une troisième, peu importe. Et là, si vous regardez les offres de postes dans ces autres disciplines-là, on commence à ouvrir des postes clairement affichés médias ou communication dans ces autres disciplines. Et à cadrer la chose sous l'angle soit de la sociologie ou de la politique, mais non pas des études en communication. Donc, ils veulent se réapproprier une partie de cet espace qui a été développé par des professeurs qui sont là devant nous, qui ont travaillé depuis 30 ans là-dessus. Pouli, je ne pouvais pas m'empêcher. Vous connaissez la chanson des Eagles? Non, là, j'ai un problème de génération ici. Là. Hôtel California des Eagles, vous connaissez?
Oui?
Oui, oui.
D'accord? Vous vous souvenez de cette phrase-là, la fin? Are we trapped in the Hotel California? C'est-à-dire, vous êtes bienvenu à l'Hôtel California, but you can never leave. Merci.
On va laisser la parole à Léna qui aura la charge de formuler les premières questions, commentaires, remarques.
Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai une question. En fait, la première revient sur le fait que vous avez bien montré avec tous les exemples comment l'expression perspective critique a été très présente. Avec le handbook of communication disparaît complètement. C'est certainement lié aux auteurs qui ont écrit ça, mais en général, dans beaucoup, j'ai pas lu autant de textes réflexifs que vous, mais quand on regarde les textes, comme par exemple de Serge Proulx, etc., sur l'institutionnalisation du champ de la communication au Québec, on remarque un peu la même tendance en dit souvent que les perspectives critiques ont joué un rôle crucial pendant l'institutionnalisation du champ avec les mouvements sociaux, etc., quand les départements de communication se sont fondés. Puis, on remarque un recul des perspectives critiques, voire une certaine régression dans les années 80, ici. Puis, mais je trouve qu'on reste toujours un peu sur son point quant à l'explication pourquoi. Je voulais savoir si, dans les textes que vous avez lus, s'il y a quelqu'un qui a fait une réflexion, c'est pourquoi, en fait, on a ce recul des perspectives critiques à ce moment donné. Puis ma deuxième interrogation, c'est en fait un peu lié. Vous l'avez mentionné, donc, je suis allemande, ça m'a fait plaisir d'entendre la partie sur l'Allemagne. Toutefois, je n'ai jamais fait d'études supérieures en Allemagne, donc j'ai un peu un regard extérieur comme la plupart d'entre nous, peut-être pas Catherine. Mais en fait, je me demandais, parce qu'en Allemagne, il y a quand même cette différence importante entre études médiatiques et études en communication. Je sais que, par exemple, pour les études en communication, la notion des perspectives critiques est encore aujourd'hui très marginale. Voire même absente. En Allemagne, comme peut-être c'était encore plus prononcé le fait qu'il y avait ce courant empiriste, fonctionnaliste, était encore beaucoup plus prononcé après la Deuxième Guerre mondiale dans ce pays jusqu'à très récemment. Même en 1960, je pense que le Conseil scientifique allemand avait décidé que les études journalistiques, par exemple, étaient plutôt un sous-domaine, pas du tout un champ d'études. Donc, ça, j'ai lu dans un texte qui, en fait, à ce moment-là, la recherche en communication était de la même relevance que les études en histoire de l'art de l'Asie de l'Est. Donc, ainsi, un peu considéré. Puis ça, c'est plutôt très récent qu'il y a un renouveau d'intérêt pour les cultural studies, pour les approches critiques. Et je me demandais si, dans les recherches récentes en anglais qui ont été publiées, si on revient sur ces thématiques-là, ou si on s'intéresse plutôt au courant empiriste et aux États-Unis.
OK. Je vais commencer par ta question sur l'Allemagne. Je n'ai pas eu le temps, l'opportunité ou le bonheur de lire beaucoup de ces textes-là produits sur l'Allemagne. Je les ai découverts en faisant la préparation pour la présentation ici. Une des raisons, selon Averbeek, de l'importance du positivisme dans les études en communication sur les médias en Allemagne
occidentale était justement la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le positivisme ou post-positivisme assurait, on souhaitait, grâce au positivisme, d'éviter les dérapages qui seraient des dérapages reliés à la culture, reliés, etc. Bon. Ta différence que tu fais en communication et médias, ça aussi, je l'ai remarqué. Et communication, à ce moment-là, il n'y a pas de pensée critique. Je dirais que c'est la même chose aux États-Unis. C'est-à-dire que tous ceux qui travaillent sur communication organisationnelle, quoique l'École de Montréal ne serait pas d'accord avec moi là-dessus, mais imaginons plutôt la communication interpersonnelle, communication maritale, communication familiale, communication et enfants. Tout ça, ce sont des champs de recherche aux États-Unis. La question de la posture critique, elle n'est pas conjuguée de la même façon du tout. C'est être critique dans ta méthodologie, mais non pas politiquement parlant. Et j'imagine que c'est à peu près la même réalité. C'est plutôt lorsqu'on travaille sur les médias qu'on est confronté à une certaine conception du pouvoir que la posture critique, la position critique, l'héritage littéraire critique intervient. J'imagine. Je ne sais pas s'il y avait une autre partie dans ta question là, qui était. Je ne suis pas certain d'avoir bien répondu, mais pour le Québec, comparativement aux États-Unis, le handbook, il faut faire attention. Le handbook, c'est celui de 73. Le premier handbook. Et ça, c'est la crête. C'est la crête de la vague du fonctionnalisme. Everett Rogers ne s'est pas encore flagellé devant la place publique. Rogers va se flageller vers 73-74 en disant « Tout ce que j'ai fait par rapport à la recherche et le développement, c'est de l'erreur. Je viens de découvrir la position critique. Ce que j'ai fait en Amérique du Sud et ailleurs, c'est pas valable. » Donc, il y a ce changement-là. Et ce changement-là commence à s'opérer par la suite. Le Québec, il faut faire attention. Quand Serge parle de l'institutionnalisation, il parle de celle de l'UQAM. Ce n'est pas la même réalité à John... comment ça s'appelait? George Williams? L'ancêtre de Concordia, c'était...
George Williams.
C'était le prêtre John O'Brien qui était derrière ça et qui avait fait une recherche sur la radio et le Vatican. La posture critique n'était pas là, là. Quand Concordia arrive, c'est autre chose. Montréal, c'est le département de psychologie qui va créer le premier certificat en communication. James Taylor, Annie Méhard, Pierre Boudon, André Caron, il n'y a pas de posture critique là, du tout. Donc, le récit que propose Serge, c'est celui de la réalité de l'UQAM, et non pas une réalité qui s'applique et qui peut être conjuguée ailleurs au Québec. En fait, la question de l'institutionnalisation, de l'identité des universités est fondamentale dans ce développement-là.
Donc, c'est plutôt un moment spécifique, mais tout le monde dit des aspects spécifiques autour de la création de l'UQAM, mais dans la
ville au Québec. Michel et Jean-Pierre pourraient être mieux te répondre que moi là-dessus parce que vous étiez un peu plus proche de la chose. Je ne parle pas de 1969 lors de la création. Mais...
Une réponse très simple, c'est qui engage-t-on? Les acteurs principaux de la critique, ce sont les professeurs qui vont être engagés. Jean-Pierre, un certain côté. C'est ça. Et en fait, au sein des départements, effectivement, la critique est en minorité par le nombre de profs qui sont là. Évidemment, ça joue. Moi, j'ai vécu la fonction de ça, j'ai l'air de l'ancêtre, mais je pense que Jean-Pierre vous le compléter. Moi, j'ai vécu la période de constitution de la fois du bac en communication en 75, moi, j'ai fait mon bac en 75, 72, déjà. Et ensuite, première cohorte des gens qui ont été diplômés à la maîtrise. Donc, on a connu finalement le début de ça. Évidemment, il y avait tout un esprit critique, et je dois vous dire que l'esprit critique, c'était les étudiants qui poussaient. Je vais vous donner un exemple, je ne veux pas prendre toute place, mais un exemple. Un premier séminaire de maîtrise, avec Gaëtan Trempé, que vous connaissez tous. Et en fait, les étudiants, on était 7-8 à l'époque, on a tous pris les auteurs critiques. Disons, on a travaillé sur William, sur Hamburger, j'avais un autre à la travailler sur Matelas, etc., etc. Et en fait, Gaëtan avouait très bien qu'il n'avait pas lu ces auteurs-là, puis lui, il venait de la psychosociologie. Donc, il y a tout un phénomène où les professeurs qui rentraient, qui constituaient finalement le premier pool de professorat, c'était des gens qui venaient de la psychosociologie, de socio avec Serge Proulx, etc. Serge Proulx était peut-être plus proche des médias que pouvait l'être la cause. De toute façon, il avait travaillé avec Edgar Morin, tout ça, qui travaillait déjà à l'époque sur ces questions-là, notamment sur la publicité et tout ça. Puis vous avez juste à regarder ce que Morin a fait dans les années 70, si vous allez vous en convaincre. Donc, c'était ça aussi, hein, l'émergence de cette critique-là. C'était, il faut revenir aux acteurs, hein, les acteurs, les professeurs, les étudiants qui sont là. Puis les étudiants qui sont là, ils sont relativement engagés aussi. Ils travaillent, c'est-à-dire, PsyBL, c'est de mes collègues à moi qui, en 75-78, c'est un projet de stage. À des gens qui venaient de Chagas-Maisonneuve, qui ont démarré, Pierre Fortin et les autres. Donc, c'est tous les gens qui étaient impliqués. Moi, je parlais d'un tour, j'avais travaillé au photographe, un certain nombre d'étudiants qui avaient travaillé au photographe aussi. On avait parti le groupe d'intervention vidéo qui existe encore 40 ans après. Alors, s'il y avait une implication, quand on parle de mouvements sociaux, il faut dire que voilà, les profs, les étudiants, et plus largement les mouvements sociaux auxquels appartiennent ces gens-là. Et c'est toute une dynamique qui finalement sort de l'université, sort essentiellement de la réflexion. Une dernière anecdote, c'est une dernière, mais c'est juste pour vous dire comment l'engagement des étudiants. C'est que dans un cours, on a fait des photocopies du premier texte de Matelas, qui était une entrevue de Matelas, dans les cahiers du cinéma. C'est 73, donc suite à son expulsion du Chili, etc. Donc, on a distribué carrément le texte pour que les étudiants puissent le lire, parce qu'on trouvait que cette position critique matérialiste était quelque chose qu'il fallait s'aimer et partager. Donc, j'arrête là, mais c'est une dynamique-là qui animait, je rejoins un petit peu aussi ce qu'on a vécu, certainement.
Alors, je vais prendre d'autres questions. Oui, je vais juste rajouter à ce que Michel vient de dire, il a tout à fait raison, que la sélection des gens dans l'embauche, par exemple, c'est un facteur important. Un autre, c'est, je dirais, globalement, un facteur conjoncturel, parce qu'on est d'une certaine manière, nous, de notre génération, les enfants de la contestation de 68. Donc, on a occupé les cégeps. Moi, j'ai occupé les cégeps en 68. Et l'UQAM a été créé expressément pour répondre aux demandes des étudiants des cégeps. Il n'avait que pour seul horizon l'Université de Montréal, où ça coûtait assez cher et tout le monde. Et le réseau de l'UQ a été créé. Un autre facteur, je te reviens là-dessus, c'est l'importance de groupes comme le groupe de travail sur la communication du CEA. C'était un lieu de convergence extraordinaire qu'on a rarement vu. Parce qu'il y avait tous les étages de la communication, si je peux dire, qui étaient représentés. Il y avait les cinq fronts, on avait identifié les cinq fronts de lutte. Et parce qu'il y avait des gens qui se réunissaient là, c'était des journalistes, des artisans de la télévision, tous des gens critiques, des syndicalistes de la communication, des profs d'université, des étudiants, des gens engagés dans l'associatif, etc. Ça n'existe pas et c'est très dommage parce que ce que je retiens de ta présentation, c'est qu'il y a un danger de clôture sur le champ. Et c'est quelque chose qu'on constate quand même assez fréquemment à l'université. Tu as des collègues en études littéraires, tu as des collègues en sociaux, tu as des collègues en histoire, en géo. C'est tous des gens qui ont des belles perspectives critiques, mais ce n'est pas des gens qui se rencontrent vraiment. C'est cloisonné incroyablement.
c'est pas une bonne nouvelle. Il y a des murs à jeter qui deviennent des murs à jeter par terre qui peuvent devenir des ponts. C'est Angela Davis qui a dit ça. Bon. Donc, merci pour ta présentation. Moi, je trouve que ça va éclairer le truc. Et je trouve, je voulais te le dire, parce que je t'avais vu à la classe, tu es très généreux de ta personne. Je te remercie.
François, est-ce que tu souhaites réagir?
Non, c'est parce que ça éclaire le fait que pour interpréter la lecture, le texte écrit par Serge à l'intérieur de cette conjoncture-là, bien précisément.
Alors, il y avait une question de Dani.
Ben, c'est pour ajouter à la discussion, parce que ce qui est intéressant dans ta présentation, c'est le... je prends un regard métacritique sur ce que tu nous présentes, c'est qu'il y a un développement de la pensée scientifique critique qui se met en place, mais avec des dynamiques institutionnelles et d'institutionnalisation d'un champ qui viennent parfois en contradiction. La nécessité de faire de la communication un champ avec des associations nationales, avec des regroupements pour la communication, pour que ça se constitue comme un domaine fort, fait en sorte que, je pense que c'est ça que tu mentionnais entre autres dans ton commentaire, c'est que ça peut avoir un effet de clôture. Et on le voit bien dans le développement. Donc, il y a l'élément institutionnalisation nécessaire du champ de la communication pour s'affirmer et être reconnu joue un peu. Il y a cet aspect critique-là à considérer dans pas juste le développement des idées, mais c'est dans la portée de ces idées-là. On traverse justement le champ, les facultés de communication du département qu'elle est portée ailleurs, parce qu'effectivement, quand tu m'as interpellé, le développement d'une pensée sur les médias, par exemple, ou sur la communication en sociologie ou en sciences po, vont se faire à partir d'auteurs qui développent, entretiennent, consolident la discipline de la sociologie ou de la science po ou de l'histoire. Et là-dessus, il y a un effet de clôture qui... Il y a des co-responsabilités.
Oui.
Le développement institutionnel qui peut jouer là-dedans.
Oui.
Et la façon dont les universités se développent aujourd'hui avec, très, très concrètement à l'UQAM, la facultarisation et le développement intra-facultaire des champs et donc de la pensée et de la formation des étudiants et de ce qu'ils peuvent mobiliser comme horizon de réflexion critique ou en communication. C'est un suivi logique avec ce que tu as dit.
Et peut-être que s'il s'agit d'une analogie aussi au fait que ces frontières-là institutionnelles, disciplinaires dans l'université participent également de la méconnaissance de chaque domaine. Ce qui est toutefois curieux, c'est que, comme le dit Poulet, nous continuons, nous, à aller consulter, lire, se nourrir, pas juste dans notre discipline, mais ailleurs, et que malgré les 60 années de recherche, que ce qui est écrit, produit ici, ne soit pas capable de s'extirper et de circuler dans les autres disciplines. Si son constat là, est vrai, et d'ailleurs, Averbeek, là, je reviens avec la chercheuse Averbeek-Litz, qui dit qu'une grande partie des revues en communication ne sont pas nécessairement indexées par, comment se nomme là, ce fameux indexeur majeur à Sylvain, oui. Et que il ne s'agit donc pas d'une priorité encore pour ces grands indexeurs de big data pour pouvoir faire le tour de qu'est-ce qui se fait et où. Et donc, on reste, la production en communication reste également en zone d'ombre. Pas juste au niveau de la réputation, mais bien dans la possible circulation et reconnaissance de la circulation.
Il y a pour moi un élément conjoncturel qui est important, c'est que l'institutionnalisation des départements de communication se fait à un moment où la recherche financée se développe et c'est plus intuitif que le truc d'analyse systématique, mais il y a beaucoup de départements de communication qui forment beaucoup plus de chercheurs spécialisés professionnels que de penseurs. Et là, l'histoire plus longue de discipline, département comme sociologie vient jouer dans l'idée d'une formation qui est d'abord de former des penseurs
former des penseurs critiques plutôt que des chercheurs professionnels spécialisés dans leur champ. Et ça, si je faisais la production de doctorants professionnels spécialisés dans leur champ, qu'est-ce qu'ils vont faire à la sortie? Ils vont peut-être s'imposer comme des professionnels dans des champs spécifiques d'études, mais pas comme des penseurs qui vont être ensemble. Puis ça, il y a une petite réflexion à mener aussi sur, tu sais, on l'a fait dans la réforme du doctorat, par exemple, mais c'est quelque chose que... Il y a une production de cette lecture-là par l'entremise d'une formation qui donne ça de manière un peu plus évidente.
C'est peut-être pour ça que je peux répondre. Vous avez reçu Mme Pierron ici il n'y a pas très longtemps. Je me sers de ça comme une anecdote pour démarrer. Et on était sur un même comité d'évaluation de bourse QRSC pour maîtrise doctorat. Et c'était sa première participation. Ça, je remonte à il y a 10-12 ans. Puis elle me dit, je suis tellement surprise, mais agréablement surprise, de voir autant de références à Michel Foucault. Je n'ai pas vu ça depuis 25 ans. Et en effet, il y a, et on sait, on a juste à regarder ce qui s'enseigne dans nos départements, le recours à Deleuze-Guettari, le recours à Foucault, Poulantzas revient, Castoriadis revient. On va chercher beaucoup dans la philosophie en ce moment. Est-ce qu'on fait ça dans la en sciences politiques? Est-ce qu'on fait ça en sociologie? Je ne le sais pas, là, je pose la question. Il y a cette... La question du penseur, là, si je viens former des penseurs, j'ose dire ceci, là, c'est peut-être parce qu'on ne trouve pas les fondements philosophiques nécessaires à l'intérieur des études en communication et qu'on invite les étudiants à les étudier leur épistémologie à partir d'auteurs qui viennent de l'extérieur. Je ne sais pas, je dis ça, là, mais c'est pas si Julien...
Non, mais en fait, moi, je voulais... Je vais te donner la parole à Eric. C'est juste parce que ma question prolonge vraiment le commentaire, finalement, de Tanouk. En fait, dans la mesure où... parce que souvent, on se représente le champ de la communication comme un champ bicéphale, au fond, avec, disons, des pratiques plutôt professionnalisantes, des pratiques plutôt de recherche. Je me demandais dans quelle mesure, par rapport à ce que tu nous as présenté, on pouvait finalement construire une historiographie du champ en excluant finalement cette réalité bicéphale, c'est-à-dire en excluant l'hétéronomie du champ, à savoir tout ce qui provient finalement de l'extérieur. Et ça me paraît quelque chose d'important parce que, à mon sens, ce n'est pas du tout la même chose que de faire l'historiographie du champ de la communication, puis par exemple de sciences humaines comme la philosophie, l'histoire, etc., qui sont des champs quand même relativement autonomes. Alors, je voulais t'entendre là-dessus. Comment tu gères cet aspect, finalement, dans tes travaux?
Tout dépend de l'espace, du territoire que je vais étudier. Par exemple, pour ma thèse de doctorat, il était clair qu'il fallait que je prenne en considération, que je n'avais pas le choix de le faire, cette division-là, bicéphale entre... Nous enseignons le journalisme, les relations publiques, un plan de com, et le soir, nous travaillons en faisant nos lectures sur Habermas, etc. Comment concilier les deux? On a trouvé des façons de les concilier pour rendre les professeurs heureux et les étudiants satisfaits en disant, bon, nous pourrions commencer à déployer plus de travaux de méthodologie de recherche. Quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a été à peu près la même chose à partir des années 50, 60. Les deux, c'est comme le travail social. Les professeurs en travail social forment des jeunes hommes et des jeunes femmes qui vont aller travailler, aider les familles, aider les personnes battues, etc. Mais ils vont également faire de la recherche et ils vont également commencer à réfléchir à l'épistémologie de la recherche et des méthodes en travail social. La psychologie à la limite également. On forme quoi? On forme des gens qui ont une pratique professionnelle claire également. Bon, journaliste et relations publiques, c'est une profession, mais bon, moins reconnue par l'État. Mais on n'est pas la seule discipline à se trouver divisée de cette façon-là.
Est-ce que juste pour répondre, juste un dernier truc, vous savez l'objectif qui était à l'époque du développement du bac en communication, c'est de créer des généralistes, c'est-à-dire des gens qui sont. Et on réduisait, en fait, on, et ça c'est la dernière photo que je prends avec vous, c'est-à-dire on parlait de pratique de la théorie et de la théorie de la pratique, cette articulation dialectique entre la pratique et la théorie. Et ce, ça rejoint un petit peu à la, comment la critique elle pouvait être assimilée, articulée, puis aussi comment on pouvait faire le pont entre la pratique et la théorie, en faire quelque chose comme combinatoire et non, non quelque chose de séparé. Entre le travail manuel, le travail intellectuel, etc., c'était toutes des questions qu'on, qui étaient posées.
Oui, Eric, il y a une question.
Bon, ben, merci beaucoup, François. On pourrait reprendre et développer plein d'éléments. Tu vois, moi, dès que j'entends parler d'état des lieux, je me dis que l'une des premières questions à se poser, c'est comment on sélectionne un corpus, par exemple, hein, l'historiographie, qu'est-ce qu'on met comme élément de contexte socio-historico-géographique dedans. Enfin, toute ta présentation mènerait à énormément de développement. Mais pour en rester, en fait, un peu dans la poursuite de ce que l'on disait précédemment, et à partir des conclusions de Poulet, je me demandais, en fait, alors, d'un point de vue très empirique, beaucoup d'auteurs ont mentionné, en effet, le fait que les études en communication étaient caractérisées par le fait qu'il y avait un apport relativement faible à d'autres disciplines, en fait, une reprise. Mais d'un point de vue empirique, comment c'est quelque chose qui peut se démontrer? Tu as donné des éléments de réponse, par exemple, par rapport aux revues. Mais en fait, tout ça repose quand même sur un postulat, c'est qu'il y aurait une, on va dire, les études en communication, les perspectives communicationnelles seraient avant tout développées uniquement dans les départements de communication, dans les revues. Et je me demande s'il n'y a pas, en fait, un certain nombre d'éléments qui justement, font qu'il est difficile de repérer d'éventuels travaux en communication qui seraient repris dans d'autres disciplines, ne serait-ce que pour des questions méthodologiques. D'où mon interrogation, en fait, à ce sujet. Et que, par exemple, est-ce qu'on est forcément obligé de considérer que, par exemple, toutes les études qui sont centrées sur la communication ont lieu dans des départements qui sont dits de communication, déjà? Qu'est-ce qu'il en est de revues? Certaines revues sont très fortement institutionnalisées et rattachées d'une façon ou d'une autre aux études en communication. Mais est-ce qu'il n'y a pas des revues où ça apparaît beaucoup moins clair? Et puis également, comment tout ceci est-il possible avec l'une des caractéristiques qui me semble-t-il plus ou moins récente, c'est la multiplication des revues scientifiques également. Là, depuis, je ne veux pas faire de déterminisme technique, mais avec le développement du numérique, il y a une espèce de multiplication considérable. Voilà quelques-unes, en fait, des interrogations.
En ce qui concerne la plus faible circulation des écrits, des recherches en communication, de mémoire, la première recherche est vers 81-82. Et ce qu'ils avaient fait, c'était une équipe de chercheurs en communication, qui sort des États-Unis, c'est qu'ils avaient pris la liste des 100 ou 120 ouvrages en sociologie, par exemple, et en sciences politiques, considérés comme étant les plus importants pour la discipline. Et là, évidemment, passer à travers les bibliographies, les références, etc., pour constater qu'il n'y avait aucune référence croisée avec communication, par exemple. Alors que si vous faites la même chose avec les travaux en communication, les références croisées vers la sociologie, bon, je pense à Gaétan Tremblay au début de sa carrière, il faisait beaucoup plus référence à Alain Fouren et à d'autres, que d'autres professeurs en communication, que d'autres chercheurs en communication. Donc, c'est ce mode d'étude comparée évidemment, c'est que le type de financement pour ça, là, à part le chercheur que ça intéresse pas grand monde. Donc, évidemment, tu fais ça avec ton crayon et c'est ce qui fait qu'il y en a de moins en moins, quoique maintenant, avec justement la numérisation, on pourrait y arriver. La quantité de revues en communication, je suis d'accord avec. J'ai fait un décompte, bon, juste à faire. Je vais juste faire une petite parenthèse. Je vous ai mis ici, là, de 1914 à 2000, les principales revues en communication selon leur année, etc. Là, j'ai arrêté à 2000. Là, puis, là, je crois qu'on est rendu à 250, 300. Mais là, évidemment, ce n'est pas simplement les anglophones. Là. c'est assez facile de faire le tour. Chaque pays de l'ancien bloc, de l'ancienne URSS, a sa revue, ses deux revues, etc. C'est absolument dans l'article d'Omar sur les revues en Afrique de l'Ouest, on voit qu'il y en a déjà quelques-unes, dont une qui remonte à 1939, assez remarquable. C'est la, il y a une quantité. Et les Allemands qui se mettent à écrire en anglais, on n'en fait plus. Mais l'autre chose, c'est un problème que j'avais dans ma thèse à l'époque, là, au début des années 2000. Est-ce que je devais me limiter à seulement ce qui avait été écrit dans les départements de communication ou je devais aller ailleurs? La réponse, ça n'a pas pris beaucoup de temps, c'est qu'il n'y avait presque rien qui se faisait ailleurs que dans les départements de communication. Il y aurait peut-être eu bibliothéconomie à l'époque qui commençait, mais sciences politiques, sociologie, il y avait très peu d'intérêt, à part peut-être un ou deux chercheurs envers la question des médias ou de la communication.
Justement, toi, tu es professeur dans un département de lettres et communication.
Pas pour longtemps.
Ah bon?
Oh. Ah. Nous allons nous séparer.
Ah bon, d'accord. Donc ma question tombe à l'eau. Non, c'était tout simplement pour remarquer qu'il m'avait semblé, en regardant ce que vous faisiez au département des lettres et communication, et j'avais aussi constaté un peu la même chose dans le cadre du département d'histoire de l'art et de communication à Medellin, c'est que le fait justement qu'il y ait ces deux domaines de recherche créent dans une certaine mesure des synergies et puis des développements de projets de recherche qui étaient quelque part au carrefour aussi des études, par exemple des études littéraires et,
ouais.
Et de la, des communications ouais. Chez vous et d'histoire de l'art et communication.
Hein, ouais.
J'ai constaté ça. Donc là, on pourrait considérer que... Et d'ailleurs, quand on regarde les départements où il est question de communication au Québec, les situations sont extraordinairement différentes.
Oui.
L'histoire de chaque, tu l'as dit toi-même, l'histoire de chaque département où il y a des études en communication au Québec est largement différente l'une de l'autre. Que l'on prenne l'Université Laval, du QTR aussi, etc.
Et ce qui me fait penser, tu as tout à fait raison, là, et d'ailleurs, le département de lettres et communication de l'Université de Sherbrooke, c'était dans les années 60, un département où on enseignait le latin. Et évidemment, puisque le latin est en train de disparaître, ben, on s'est dit, les chercheurs à l'époque ont dit, ben, il nous reste au moins la grammaire et la rédaction. Et à partir de la grammaire et de la rédaction, ben, ils ont commencé à grossir, la linguistique a embarqué, etc. Ce qui me fait penser, quand on fait la question de nationalisation, moi je vous suggère fortement, si vous ne l'avez pas fait, d'aller lire les travaux de Robert Bourg sur l'histoire de l'institutionnalisation en France. C'est fascinant, ça aussi, comme récit. Bon, c'est ardu par moments, là, parce qu'on est vraiment dans le détail et dans l'archive, etc. Mais de voir d'où proviennent les départements d'Infocom, là-bas, avec les cheminements, où, je fais une autre piste, comment les Américains, les Européens, Allemands ou Britanniques vont raconter comment, en France, les études en communication ont commencé. Et c'est fascinant parce que les récits ne sont pas les mêmes. Alors, on est dans une espèce de flou artistique. Et la dernière chose, parce que Tano m'a fait penser à question. Quand je disais on va chercher ailleurs, les penseurs. Bon, moi, je ne suis pas allé chercher Deleuze, Guattari, etc. À l'époque, je suis allé chercher, quand j'ai découvert Stuart Hall, je suis allé chercher les British Cultural Studies. Qui me permettait de me nourrir pour pouvoir réfléchir aux médias et à la communication. Mais c'est un autre exemple d'emprunt. Je suis allé chercher à l'extérieur, parce que ce qu'il y avait à l'intérieur de l'espace dit disciplinaire, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et quand on pense avec Adorno et Horkheimer, ce ne sont pas des chercheurs sur les médias et la communication non plus. Avec la théorie critique allemande, on va chercher à l'extérieur, on va chercher en philosophie, en esthétisme, etc. Il y a juste Habermas qui a permis à plusieurs d'être heureux parce qu'il semblait proposer un pont de par son objet.
Alors, on manque de temps, donc je vais prendre une question de Omar. Et puis, d'accord, mais d'abord la question de Omar, histoire que chacun ait un temps. Ouais,
alors, merci François, j'ai trouvé super stimulante ta présentation.
On s'est jamais rencontré. Alors, enchanté.
Oui, enchanté.
Ouais, je t'ai lu, mais
c'est pas fini. Alors, en 92, Bourdieu, Collège de France, sommet en France, hyper hiérarchisé, effectivement, qui a toute la légitimité, se pose la question, la sociologie est-elle une science? 150 ans après la fondation de la discipline. Ma question est la suivante. Est-ce que ce que tu présentes comme un diagnostic un petit peu alarmant pour la discipline communicationnelle n'est pas quelque chose qu'on retrouve plus largement dans le domaine des sciences sociales? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est également une petite interrogation. Est-ce que ce qui est plus alarmant, ce n'est pas le fait qu'on ne soit pas cité, mais ce serait plutôt le fait qu'on ne se cite pas nous-mêmes?
Bon, pour ta deuxième question, je crois que ça aussi a été démontré. On se cite très peu. Si on considère que nous faisons tous partie d'un champ de recherche qui est celui de la communication avec une cote, ou FQRST, CRSH, etc., je me souviens plus, c'est quelle est la cote de la discipline, son numéro. En effet, paraît-il, il y a eu certaines études, certains rapports là-dessus. Ce qui est assez. Évidemment, premièrement, c'est curieux. Deuxièmement, le champ de recherche lui-même, ou la discipline, moi je ne suis pas à l'aise avec le mot discipline, mais. Le champ des études en communication est tellement large aujourd'hui. Là, encore une fois, je le répète, on est ici un groupe, une communauté de personnes qui travaillent sur les médias, la culture, etc. Mais ceci n'est qu'une des nombreuses, très nombreuses branches du domaine. Alors, une partie de la réponse, c'est qu'on devrait référer à ceux du même sous-champ, mais qu'en plus, ces références-là sont limité, pauvre. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a un problème. Et est-ce que ça veut dire que l'on considère que nos collègues ou les recherches de nos collègues n'ont pas assez de prestige pour qu'on puisse y référer afin d'être reconnus nous-mêmes? Il y a plusieurs hypothèses qui viseraient à expliquer la chose. On peut poser des questions. Est-ce que c'est parce qu'on ne reconnaît pas le prestige de ces autres études-là? La question de Bourdieu, oui, je suis bien d'accord, il n'est pas le seul, tu sais, le Giddens, etc., sont revenus là-dessus. C'est constant, et je trouve ça sain qu'on revienne, d'autant plus que nous, en communication médiatique, nous sommes très proches de cette évolution technologique constante. Et vous reprenez le Media Culture and Society de 79, l'objet c'est quoi? C'est la télévision. Le cadre, c'est quoi? C'est l'État-nation. Et là, 35 ans plus tard, c'est pas la télévision, mais c'est la télé, tout ce que vous voulez. Et le cadre, c'est plus l'État-nation, c'est la globalisation et la transnationalisation.